When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Payet pour Nick, la radio.
Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat? Pendant presque 2 ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite, pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
Mais ouais, la danse, c'est absolument central, c'est ce qui fait...
Enfin, faire la fête, c'est pas paraître, en fait, c'est danser déjà de base. Je dirais que ça devient de plus en plus sportif. Si on vit en hiver, faut peut-être arriver chaudement, mais à quelque chose de suffisamment léger en dessous pour pouvoir transpirer tranquillement. Parce que à chaque fois, ça devient sauna, les murs qui transpirent, enfin... Je pense qu'il fait plus de 40 degrés dans la soirée, en fait, tellement il fait chaud.
Ils sont arrivés au studio radio comme ils entrent sur les dance floors. Flex en basket, prêts à bondir et à rebondir. Et surtout, ils sont arrivés à deux. Car ces deux-là sont inséparables depuis qu'ils ont goûté ensemble au plaisir de la danse. Ensemble, Vincent-Frédéric Colombo et Fanny Viguier forment La Créole. Née en janvier 2018 dans un minuscule club du 93, le Chinois, à Montreuil, les soirées de La Créole font twerker les nuits parisiennes comme jamais. La Créole, ce sont tout simplement les soirées les plus bouillantes de la capitale ces dernières années. Des teufs qui mettent au cœur de tout la danse libérée et les identités multiples et métissées. Mettre un pied à La Créole, c'est voyager tout à la fois dans un bol de voguing, une teuf underground berlinoise, un sound system jamaïcain et un carnaval caribéen. Mettre un pied à La Créole, c'est accepter de s'enflammer, c'est ressortir épuisé, trempé, enfiévré. Et de leur douce voix paradoxale, caresse suave, câlin vocal, Fanny et Vincent nous racontent la température qui monte, le tourbillon et l'embrasement. Fanny, Vincent, bonjour.
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 La dernière fois que vous avez fait la fête, c'était quand ?
La semaine dernière, à Antigel Festival. On faisait une créole, justement.
C'était une créole ?
Oui. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes règles sanitaires que nous, donc on a pu...
Ça a été levé plus vite qu'à part, qu'en France.
C'était où ?
À Genève.
Et c'était une belle fête ?
C'était assez cool, puisqu'on a presque retrouvé l'atmosphère du Chinois.
Ah ouais ?
Alors qu'on n'était pas du tout dans les mêmes configurations.
Le Chinois à Montreuil, vous avez, qui est un peu votre lieu de résidence habituel.
Notre fief, notre maison mère.
Est-ce que c'est important pour vous de faire la fête ? Est-ce que ça l'a toujours été ?
Je pense que c'est vital, c'est social. Je pense que c'est quelque chose que l'on fait même dans des cadres extrêmement informels, donc... Ça fait partie de la réunion d'individus.
Qu'est-ce que vous recherchez dans la fête ?
La cohésion, le droit à exister, à s'exprimer, le lâcher prise.
Le partage, l'unisson même. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, au-delà d'un aspect spirituel, je pense que c'est comme un nouveau lieu de croyance, mais qui dépasse la croyance religieuse.
Quelque chose de presque mystique.
Ouais. Ouais. Il y a une dimension assez fusionnelle, je dirais, dans nos soirées qui s'est créée. C'est finalement, au-delà de ta volonté d'ouvrir une porte, il y a ce qui s'y passe et ça te dépasse un petit peu. C'est ça qui se produit à chaque soirée. Il y a une fusion entre le public qui s'y rend, aussi divers soit-il, la musique, les danseurs, les DJ, et il y a une communion absolue qui émane de tout ça.
On va revenir peut-être un peu à la genèse un peu de vos parcours et de vos rapports respectifs à la fête. Est-ce que chacune, vous pouvez me dire où est-ce que vous avez grandi, dans quel milieu vous avez grandi et est-ce qu'on faisait la fête chez vous quand vous étiez petit et petite ?
Alors moi, je suis né à Paris, de parents guadeloupéens. Ils sont rentrés en Guadeloupe, je crois que j'ai un peu plus d'un an. Donc j'ai vécu 17 ans en Guadeloupe, dans la région de Basse-Terre, à Saint-Claude. Je dirais que la musique a toujours été extrêmement présente dans la famille. Mon père, je pense qu'il est un assez grand mélomane, il adore écouter de la musique. Je pense que ça a beaucoup influencé le spectre musical que j'apprécie encore aujourd'hui. Déjà, il y a toujours eu de la musique, la radio qui était en fond. Mes parents adorent la salsa, ils ont toujours dansé devant nous. Enfin, je pense que ça a toujours été quelque chose qui a été très naturel, très instinctif. Et même les fêtes de famille, les anniversaires, c'était souvent assez animé.
En Guadeloupe et dans les Caraïbes de façon générale, le carnaval a une place assez importante.
Je pense que c'est... Après Noël, c'est l'une des plus grosses... Déjà, c'est dans la continuité de Noël pour nous. Je pense que le nouvel an pour nous, c'est 2 mois. tous les week-ends, des animations, des défilés, des groupes, des performances qui sont là pour réveiller l'île avant la période du carême, qui est extrêmement suivie aussi. C'est un moment de défoulement et qui est un gros catalyseur, je pense, de l'énergie et de l'équilibre de l'île.
Ça, c'est quelque chose qui t'a accompagné dans ta jeunesse ?
Dans ma jeunesse, oui. Même si je n'ai jamais été dans un groupe, parce qu'on a un jour vraiment pour le carnaval des enfants. Donc souvent les écoles participaient, donc on avait des costumes qui étaient faits par... souvent c'était ma grand-mère ou ma tante qui le faisait. Ma mère, je sais pas pourquoi elle le faisait pas, pourtant elle s'écoute, mais elle laissait toujours soit ma grand-mère, soit ma tante le faire. Ouais, ça accompagnait en fait notre calendrier dans l'année.
Après on va parler un peu de l'aspect politique de la fête, mais en fait dans le carnaval il y a déjà une dimension extrêmement politique.
C'est complètement ça. C'est un renversement de la société, c'est un moment où on utilise ce moment festif pour remettre en lumière des problématiques qui sont totalement politiques, environnementales, sociétales, sur le devant de la scène, parce que ça devient des thématiques lors du carnaval. Depuis des années, on a des thématiques au niveau de l'eau, au niveau du chlordécone.
Le chlordécone est un insecticide ultra toxique utilisé dans les bananeraies des Antilles françaises et à l'origine d'un scandale sanitaire.
On a ce personnage du Vaval aussi, qui est le dieu du carnaval, qui est créé chaque année sous une thématique à l'année. Et il peut être une femme, il peut être un homme, il peut être un être hybride. Et à chaque fois, il est brûlé le mercredi décembre. C'est un peu pour exorciser les tensions, pour essayer de s'en libérer. Ça a beaucoup aidé, même pendant l'esclavage, à pouvoir apaiser un peu certaines tensions de la vie, tout simplement quotidienne, puisqu'il n'y avait plus de notion de classe à ces moments-là. Mais c'est vrai que maintenant, vu que c'est quelque chose qui a été vraiment repris par la population, donc c'est plus une notion de maître qui essaie de pouvoir se divertir tout en laissant le peuple essayer de se libérer le temps d'eux, vraiment dans un cadre extrêmement restreint et contraint. Ben maintenant, c'est devenu quelque chose qui fait tellement partie de nos vies. C'est presque une religion, le carnaval. Quand on regarde bien, 2-3 mois de préparation, 2-3 mois d'exécution. Et puis après, ça revient l'année d'après. Donc c'est vraiment comme une religion, j'ai l'impression.
Et c'est quoi les musiques qu'on peut entendre dans le carnaval ?
Ça dépend des îles. Même entre la Guadeloupe et la Martinique, il y a quand même des différences qui s'opèrent. On a des orchestrations qui sont faites à base de cuivre, à base de clavier, à base de synthétiseurs aussi. Les groupes à peau aussi qui peuvent juste jouer avec des tambours et un lambi, ce qu'on appelle le strombophone. Donc ce qui était utilisé aussi pendant l'esclavage pour pouvoir signaler par les nègres marrons que comme quoi il y avait un danger qui arrivait et qui est réutilisé encore dans le carnaval mais de manière plus festive.
Alors toi Fanny, où est-ce que tu as grandi ? Dans quel contexte ? Est-ce qu'on faisait la fête ?
Moi, j'ai grandi dans le 77, à Comble-la-Ville, une petite banlieue, et à la fois un milieu semi-rural où tu as la forêt, des champs, donc tu sais pas trop te situer, t'es campagnard, banlieusard, je ne sais pas. Écoute, dans ma famille, on faisait pas mal la fête. Je viens d'une famille plutôt artistique, mes cousins sont musiciens, mon père est mélomane, mes deux parents sont d'anciens hippies. Donc oui, c'était plutôt propre aux festivités, à la musique.
C'est quoi tes premiers souvenirs de fête quand t'étais petite ?
Un Noël qui me marque, où mes cousins étaient donc musiciens, en plus il y en a un qui est contrebassiste, donc c'est pas un instrument que tu trimbales dans ta poche, mais il l'avait tout le temps avec lui, et du coup, très naturellement, au milieu du repas, boum, ils se mettaient à jouer, puis ça chantait, ça dansait, ils invitaient leurs potes. Ouais, on bifurquait très facilement vers ça.
Et pareil, tu penses que ça t'a influencé, en fait, d'avoir baigné dans cet environnement extrêmement musical, extrêmement festif ?
En tout cas, ça m'a influencé dans le sens libérateur de ce que ça peut vouloir dire, et le cette facilité à s'autoriser à danser, alors chanter non parce que moi je le fais pas, je m'y autorise pas, il vaut mieux pas, mais danser dans le sens où on peut pas ne pas savoir danser, soit on n'a pas le sens du rythme, ça c'est une autre problématique, mais c'est pas une question de pas savoir danser, c'est ne pas oser danser, finalement c'est la timidité qui retient, qui contient les mouvements et qui fait qu'on se sent un peu nul sur une piste.
Et alors, à quel moment que ce soit toi Vincent ou toi Fanny, vous avez commencé à faire la fête par vous-même et vraiment voilà, sortir du carcan familial et aller... Alors c'était quoi? C'était des booms? Vous êtes sortis en boîte de nuit?
C'était des booms, ouais. Quand j'avais 13 ans, c'est un truc vraiment mythique dans mon collège de l'époque, les fêtes d'Ulrich. C'était un nouvel élève qui habitait dans une ville un petit peu à côté et je pense pour fédérer, pour se faire un peu des nouveaux potes, ils faisaient des soirées, mais des vraies soirées, le truc qui dure toute la nuit. Et forcément, t'es assez peu de filles à avoir l'autorisation de rester toute la nuit parce que bah, voilà, les parents s'inquiètent un peu. Sur un malentendu, mes parents m'ont autorisé une fois. Et puis du coup, une fois qu'ils avaient dit oui une fois, bah, j'ai eu le droit à tout le temps et puis ça se passait très bien. Et ouais, c'était des fêtes où on dansait. Et c'est d'ailleurs dans l'une de ces soirées que j'ai rencontré ma super pote de l'époque. Enfin, c'est sur une piste de danse parce qu'on était les deux à vraiment danser à fond. Donc ça a créé des liens entre nous et c'était des fêtes vraiment mythiques. Tu as le truc de quand t'es petit et tu regardes un film américain et il y a la boum de un tel, bah c'était ça. Voilà.
Moi, c'est assez particulier parce que j'ai toujours été assez introverti, même si je dansais. Il y a des moments où je m'autorisais clairement à danser pendant les mariages, les premières communions, les professions de foi. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes un peu comme ça qui nous réunissent, mais la première fois que j'ai été en boîte, c'était pour fêter mon bac. Et même là, je crois que je ne m'étais pas vraiment autorisé à danser comme j'ai pu l'expérimenter par la suite quand je suis arrivé en France. Et je crois que l'une des premières soirées que j'ai dû vraiment faire en club, c'est grâce à un pote qui s'appelle Yohan Messelin, qui est martiniquais et qui m'avait, je crois, amené au Queen.
Sur les Champs-Élysées,
ouais,
à Paris.
Un dimanche soir au Queen. Je sais qu'il m'avait pas mal préparé en me disant « Il faut s'habiller comme ci, il faut porter ça. » Enfin, il m'avait presque fait un relooking pour essayer d'intégrer ses codes à lui et les codes un peu de l'époque. Il fallait que j'ai un espèce de sling et puis un t-shirt en col V, mais très profond. Enfin, mais je pense que les premières vraies soirées que j'ai vraiment... où j'ai vraiment senti que j'étais à ma place et que je faisais quelque chose de... Bah c'est cool, je crois que c'était la Flash Cocotte. Je crois que c'était vers 2011 ou 2012.
Ouais.
Le fait que moi, en même temps, je regardais de loin et on se connaissait pas encore avec Vincent à cette époque-là. Je les voyais de loin. J'avais l'impression, je sais pas comment dire, je me sentais appelée. J'avais l'impression que ce serait potentiellement un endroit dans lequel j'aurais une place, enfin une place qui me correspondrait. Et à la fois, j'osais pas du tout franchir le pas d'y venir parce que j'y connaissais personne, que j'avais cru comprendre que c'était un peu select à l'entrée et select avec d'autres codes que ceux de des clubs hétéronormés classiques. Mais finalement, je me suis toujours empêchée d'y aller en me disant, bon après aussi j'habitais dans le 7-7, donc faire le voyage et qu'on me dise non au-delà de l'humiliation, flemme. Mais je l'ai regardé de loin ces soirées et je me disais, mais ça a l'air incroyable.
Je crois que c'est l'une des premières soirées où déjà je sortais d'un cadre extrêmement hétéronormé, même si au Queen ça restait libéré, mais il y avait quand même ces codes. Là, c'était l'une des premières soirées où j'étais, où je pouvais être habillé vraiment comme je souhaite. Et ça me faisait rire de voir des mecs qui avaient l'air de sortir d'école de commerce qui se faisaient refouler.
Oui, les codes étaient inversés du coup.
Pour resituer un peu, du coup, les soirées Flash Cocotte, donc c'était des soirées à Paris plutôt gay friendly en tout cas, à la Java.
Non, c'était à l'espace Pierre Cardin. Moi j'ai connu à l'espace Pierre Cardin. Donc c'était quand même un lieu assez immense. Quand on rentrait dans la pièce, on avait l'impression que c'était un four.
Oui.
Enfin, on passait de « il fait froid en hiver » à « il fait 40 degrés ». Et dans une pièce qui fait, presque 1000 mètres carrés, un truc comme ça, ça marquait quand même.
Toi Fanny, c'est quoi du coup, si t'osais pas aller au Flash Cocotte, c'est quoi la soirée ou les soirées ou le lieu qui t'a un peu révélé à la fête, vraiment?
La personne qui m'a révélé à la fête, je dirais que c'est Vincent.
Ah. Intéressant.
En fait, ce que j'aimais... Justement, on s'est rencontrés en 2013. Avant ça, j'allais pas mal en soirée trans avant, musique trans.
Ouais.
C'est aussi un espace que j'avais apprécié. Finalement, je suis assez éclectique et je peux aimer pas mal d'endroits différents avec des styles différents. Tant que la cohésion entre les gens ou le... Ouais, il y a une espèce d'ambiance qui te porte, je me laisse porter, il n'y a pas de souci. Je me nourris en fait de l'énergie des autres aussi, et ça m'aide à apprécier une musique que je n'aurais pas de moi-même nécessairement écoutée. Donc ouais, j'ai une petite période free party, trans, okay, dans les bois, tout ça.
Raconte-nous un peu cette période de free party alors. Les free parties dans le 77?
Oh, il y en avait un peu partout, hein, dans le 77, oui, mais un peu, au bout d'un moment, tu sais plus où elles sont. On t'envoie un texto qui te dit, après le troisième boulot, tourner sur la fourche. Rendez-vous dans le champ.
Comment t'es tombée là-dedans?
C'est ma sœur qui allait là-bas, ma petite sœur.
Ah oui.
On a 13 mois d'écart, hein, on n'est pas très loin l'une de l'autre. Et moi, j'étais partie à vivre à Nantes pour faire mes études aux Beaux-Arts. Quand je suis revenue à Paris, mes cercles sociaux avaient un petit peu changé, c'était étiolé. Et puis, et ma sœur m'a dit, bah, viens avec moi. Et j'y suis allée. J'ai pris goût aussi. Donc, j'aimais bien l'univers social, comprendre les nouveaux codes. Voilà, c'est comme ça que j'y suis rentrée. Exactement. Ouais. Enfin, transgressif, oui et non, c'était plus vraiment la notion d'univers. Et c'est pour ça que je préférais les soirées trans, d'ailleurs, au free party plus dense, même si c'est intéressant aussi. Mais dans l'univers de la trance, il y a toute une synergie avec les décors, ça va au-delà de la simple musique, il y a une manière que les gens ont de se connecter, que j'aimais bien.
Ouais, et puis du coup, c'est une fête qui est pensée globalement, quand tu parles de décor,
oui, absolument.
Non, c'est un univers
un peu,
global.
Un peu
quoi.
Comme aujourd'hui, on le fait avec la créole dans un tout autre versant. Et on s'est rencontrés avec Vincent pour faire des photos au départ. Ce que j'ai aimé avec Vincent, c'est que quand on sortait ensemble, on dansait. On faisait que danser, que danser, que danser, que danser. Et on était là tous les deux à juste se la donner, en oubliant tout le reste. Et on était là vraiment pour ça, en fait. Finalement, peu importe l'endroit où... Enfin, pas peu importe la musique non plus, mais en général, les sélections de DJ étaient bonnes. Et peu importe leur sélection de musique, ça nous portait. Et voilà, on se donnait un peu d'énergie mutuelle, je crois. Et c'est ça que j'aimais bien.
Donc toi, Vincent, t'es passé du personnage introverti qui n'osait pas danser à l'initiateur qui... qui fait danser les autres.
Non, mais je pense que j'avais peur de danser, ou en tout cas j'avais peur de vraiment m'exprimer comme j'en avais envie, parce que je pense que le côté ultra conservateur des Antilles me laissait pas m'autoriser à m'exprimer comme je souhaitais. Je pense que c'était vraiment ça, de me dire que bon, je commençais à comprendre mon identité en tant que jeune gay, et je me disais simplement, j'avais juste pas envie d'être harcelé, bon, même si j'ai toujours entendu des abrutis me critiquer avant même que moi-même je sache qui j'étais. Mais en fait, j'avais juste pas envie de donner raison aux gens, de me dire, bon, je vis ma vie pour moi, et puis je vivrai ma vie quand je quitterai cette île. C'était un peu ça, en fait. Quand je suis arrivé en France, je me suis déjà un peu plus libéré. Je pense que même le fait d'avoir connu la ballroom scene, je crois que j'avais 23 ans, en 2014, ça m'a encore plus libéré.
La ballroom scene, c'est une culture née dans les communautés queer racisées de New York dans les années 70. Cette culture s'organise autour d'événements, les balls, des compétitions, autour de catégories, soit de danse, soit de drag. Le voguing est sans doute la danse la plus populaire et emblématique de la ballroom culture.
Une notion de féminité dans mes mouvements, je la réfrénais malgré tout encore. Même si j'allais en soirée gay ou autre, j'allais pas que dans les soirées communautaires. J'aimais cette notion de me dire, bon, j'essaie d'être un peu passe-partout, mais j'ai pas envie de trop attirer l'attention. Et je pense que la ballroom m'a beaucoup aidé à pouvoir être plus à l'aise avec moi-même et ne pas me sentir jugé. Et je me suis rendu compte aussi que les gens étaient même plus admiratifs de voir quelqu'un qui danse sans se foutre des convenances, on va dire.
Et alors, revenons à votre rencontre. Tu l'as dit, c'était essentiellement en fait autour de la photo, autour de l'art, parce que toi, Vincent, t'es designer à la base, styliste, et toi, t'es photographe.
Il avait créé une collection capsule autour du vestiaire folklorique antillais, et on travaillait sur l'antillanité.
En commençant à réfléchir et à me replonger simplement dans mon identité créole, et en fait, on voulait juste pas rentrer dans le cliché de l'image lookbook, déjà pour présenter des vêtements, et juste l'imagerie qui est souvent accolée en fait au territoire des Outre-mer en fait.
Et en parallèle, moi, dans mon travail photographique, j'essayais de travailler sur la mode, mais comme un portrait social, et de... je questionnais pas mal la question de... Enfin, de l'autre. On définit l'autre, mais pourquoi est-il autre par rapport à nous-mêmes, etc. Et puis, finalement, c'est... Vincent a développé cette manière de travailler le textile autour de son identité. Il a fait d'autres pièces, et puis on a fait d'autres photos associées à ces pièces qui sont arrivées au fur et à mesure, jusqu'à avoir une série pas mal. On est partis ensemble en Guadeloupe pendant 3 semaines, on a fait du casting sauvage, de très belles images que j'ai présentées à la Bourse du Talent Mode et qui ont été retenues, donc exposées à la BNF.
Et on avait fait cette expo qui s'appelait Creole by Creole Soul.
Dans laquelle on a photographié 56 personnes issus de la créolité, au sens le plus large possible de ce que ça veut dire. On a commencé à interroger le mot créole, parce que finalement, on s'appelait créole, notre projet s'appelait Creole Soul depuis le départ. On s'est rendu compte, en lisant, en étudiant un peu, notamment le travail d'Edouard Glissant, qui est un de nos maîtres à penser.
Edouard Glissant, c'est un écrivain et philosophe martiniquais, c'est un des penseurs de la créolisation et de l'antillanité.
Que ce mot était allait bien au-delà de la zone géographique de la Caraïbe et des Antilles, enfin des Antilles sur lesquelles finalement on était plus resté fixé de par le point de départ de Vincent, puisque c'était un peu ça le point de départ malgré tout. Donc on a élargi ce sujet et puis on a fait une exposition dans une boutique qui s'appelle Trippen où Vincent travaillait à l'époque. Et cette expo s'est assez naturellement transformée en soirée. On avait invité Crystal Mess et Bamao Yende.
Et du coup, en fait, la créole, la soirée, la créole qu'on connaît, elle naît
d'une expo.
Non, c'est le vernissage d'une expo, en fait.
Absolument.
L'ambiance d'une expo qui qu'on a voulu un peu en 360, parce qu'on ne voulait pas juste montrer des images et puis montrer une diversité d'êtres. En soi, créole n'est pas une race. Créole n'est pas un résultat, c'est des possibles. Et on voulait essayer de casser juste l'image des clichés en fait, que les gens ont, de toujours essayer de projeter des identités sur des gens parce qu'ils ressemblent à ce qu'ils ont connu de près ou de loin d'une idée d'un autre, d'un ailleurs. Et on voulait vraiment réussir à casser tout ça, en fait.
Et alors, cette première soirée vernissage d'expo...
c'était incroyable. Enfin, de toute
iconique.
Façon, on n'avait pas prévu qu'elle serait une soirée. Nous, on a invité les gens
à vernissage.
On s'est
juste dit, ouais, il faut juste un petit...
On avait mis un fond sonore.
Oui, voilà.
Enfin, de qualité, hein, parce
ouais,
que Bamao
et
Crystal Mess,
c'est
pas rien, on est d'accord. Le public était aussi constitué de nos amis qui étaient aussi beaucoup danseurs, notamment faisaient partie de la ballroom scene, donc de fil en aiguille, bon, voilà, la boutique s'est transformée en dance floor. Et
on a même eu le passage des flics.
Voilà.
Ah oui.
Ouais.
Et puis, quelques mois plus tard, la véritable créole telle que on la connaît aujourd'hui est née au mois de janvier 2018.
Au chinois.
Exactement.
Exactement. Mais alors, c'est au moment de cette soirée que vous vous dites, en fait, on va peut-être pas faire que des expos, on va peut-être organiser des teufs, enfin...
Mais on n'en avait jamais fait, donc on a été au Chinois. C'est un espèce d'heureux hasard. À la fois, on connaissait ce lieu, moi je l'avais découvert, on avait été à des Parkinson ensemble, et puis à une Parkinson ensemble. Et puis, je l'avais découvert pour les Black New Black organisés par Harmony Corinne, à l'époque, qui avait aussi cette volonté de mêler des publics différents et des disciplines différentes. On s'est adressé à eux en se disant c'est un lieu qui pourrait potentiellement nous accepter parce que quand t'as jamais fait de soirée, que t'es un peu personne entre guillemets, tu vas pas aller voir la machine et dire salut les gars. Enfin, il y a quand même une notion de rentabilité qui va rentrer en question à un moment donné. Ben, comme le gérant est assez ouvert et curieux de nouvelles choses, il a dit bah, let's go, c'est parti, allez-y, faites votre petite fête là.
Tu peux nous décrire un peu le lieu, le chinois?
Le chinois, c'est au départ un ancien resto chinois, c'est pour ça que ça s'appelle le chinois, qui a été repris et transformé en club, qui se trouve sur la place du marché à Montreuil. Tel que c'était à l'époque, ça s'appelait chinois, ils avaient juste, en gros, retiré les tables, les chaises, et il y avait une mini-scène, et c'était le chinois.
Et un bar. Ouais.
Et un bar, voilà. Au moment où nous, on fait notre première soirée, et ils ont fait des travaux, donc le chinois a un peu changé, et on arrive dans un chinois presque neutre, qui fait presque vieille salle des fêtes,
municipale.
Pas encore habitée. Donc il y avait une espèce de scène en béton brut, et une vieille table... trop basse et des enceintes et des platines. Ça ressemblait à ça la première.
Et un manque de lumière aussi.
Ah oui, un sérieux
première
manque
soirée,
de lumière.
Vraiment un sérieux manque de lumière.
Mais pourtant, la magie a opéré dès la première soirée. Donc le public était extrêmement... Aujourd'hui, notre public est connu pour être assez varié et éclectique. Mais à l'époque, il y a encore plus parce qu'il y a encore plus de place pour que tout le monde puisse rentrer. Donc n'importe qui passe devant la porte et qui dit « Tiens, j'ai envie de rentrer », rentre et vient découvrir. Donc il y avait pas mal de Montreuilois, les gens qui suivaient nos travaux, donc beaucoup d'amis... Pas mal de gens issus toujours de cette scène de danseurs et de la ballroom scene.
On pouvait entendre quoi alors dans cette soirée ?
Du compas. Du zouk. De la dancehall.
Botois 10 She nasta. She a text off the phone. She nasta. Mister, please call me, but could no call back. Me the studio and a vice up a one shot.
On partait sur des sons un peu plus électro aussi. Pas mal de UK garage. I feel good, good, good. I feel good, yes, wonderful, good. Anytime I come on and the dance, I feel listen to the mic in my neighborhood. Mais je crois que déjà le premier line-up, on avait eu Crystal,
Bamao,
on avait eu
Bamao,
Lazy Silver. Chacun
Lazy et Silver sont là depuis, nos résidents sont là depuis le début du début.
Donc en gros, en soi, c'était comme une exploration encore plus large et plus intense que ce qu'on avait fait au vernissage. Et je crois que le maître mot qu'on leur avait dit, c'est mélanger tout ce que vous pouvez. Ne vous limitez pas simplement à l'idée de... Parce qu'on dit que c'est la créole qu'il faut mettre de la musique caribéenne. On veut juste expérimenter une notion de la fête, comme toutes les fêtes qu'on a déjà pu faire dans notre vie, tout ce qu'on peut trouver sur Paris. Mais en mieux.
On le pense un petit peu comme un projet plasticien à 360. Pour nous, la créole raconte la même chose que le projet photo inhérent à cette soirée, en fait, c'est là ou d'autres projets futurs ou les vêtements de Vincent.
Et puis on a même joué là-dessus par rapport à la typo qu'on a choisie, qui a rien à voir avec quelque chose d'exotisant.
Oui, c'est une réinvention perpétuelle. C'est casser les codes tout en les glorifiant et en les respectant. C'est toujours une balance entre le renouveau, l'ancien, comment tu dépoussières ou juste tu mets sur un piédestal le folklore tout en le réactualisant, une juste mesure.
C'est qu'il y avait du gros cas aussi que nous avait joué Silver. Et là pour le coup, je crois que c'était la première fois que j'entendais du gros cas en club à Paris. Mais je crois que ça m'a mis dans un état, mais je me suis dit waouh.
Peut-être que faut dire ce que c'est que le gros cas.
Le gros cas, c'est la musique traditionnelle de la Guadeloupe. C'est une musique qui a été développée par les esclaves. Il y a 7 rythmes dans cette musique.
Vous réinventez en fait l'identité créole, ou ce que c'est même que l'idée de créolité. C'est quoi votre conception de la créolité ?
En fait, pour nous, elle est entre la créolité et la créolisation. Donc c'est aussi bien tout ce qui vient de ces territoires créoles.
Ça, ce serait plus lié à créolité.
Voilà.
Et en même temps, on s'est nourri un peu de toutes nos expériences qui étaient extrêmement larges, extrêmement variées et qui ne se limitaient pas qu'au carcan des Antilles ou des Outre-mer, mais pour la confronter aussi à tous les courants musicaux où aussi ces ressortissants, cette diaspora a pu contribuer dans l'histoire de la musique.
La créolisation, du coup, on est plus sur un processus, c'est sur
Exactement.
Quelque chose qui relève du métissage, de la recherche de métissage.
C'est ça, c'est la notion d'interpénétration des cultures, de rencontre. Tu vas au-delà de la notion de métissage, dont on peut presque s'attendre à un certain résultat. Alors que la créolisation va être une surprise. Ce résultat sera vraiment une surprise, une nouvelle fusion, une création nouvelle. Depuis la France, tu parles créole, tu penses créole, tu penses souvent métisse, tu penses Antilles, et puis tu voilà, c'est un peu flou,
ça, ouais.
c'est près, c'est loin, c'est très réducteur. Et finalement, enfin, les gens pensaient en noir et blanc, alors que c'est pas noir et blanc, c'est et noir et blanc, et plein d'autres choses, plein de cultures, plein de continents.
Une émulation.
Basée malgré tout autour au départ de la colonisation et de l'esclavage, parce que ça reste la raison majeure pour laquelle toutes ces populations se sont trouvées en un même temps et en ce lieu.
Alors comment cette créolisation se traduit en teuf ?
En des sets extrêmement variés en BPM.
Ouais.
Prolifique.
Parce qu'on peut être, je pense qu'on peut, dans un seul set, ou même dans tout l'ensemble de la soirée, je pense qu'on peut passer du 80 BPM à du 160-180. Mais bon, ça peut passer de son zouk qu'on transitionne avec de la techno, du gabber, tout en allant sur des vogue beats, de passer du gros cas, enfin Greg l'a déjà fait en plus sur des sets, c'est de passer de la gros cas à de la techno, et ça fonctionne en fait, c'est juste, limite on se dit mais pourquoi on s'est toujours contraint à se dire faut rester dans des cases en fait, faut juste les sauter.
Ouais, ouais. C'est ça le maître mot en fait dans la créole, c'est qu'il n'y a pas de limite finalement, et je crois qu'il y a musicalement, il y a cet aspect qui est effectivement très important, mais ça se traduit aussi par toujours cette notion d'éclectisme, de diversité, de différence, mais qui sont valorisées. Enfin, chacun est là pour sa différence, sa spécificité, enfin, son unicité en tant qu'être, tout simplement. Et la manière dont toutes ces individualités circulent avec du respect les uns pour les autres. Les gens se croisent malgré tout. Il y a quand même dans le récit post-soirée qu'on nous fait, que ce soit des personnes qui viennent depuis les débuts que des nouveaux arrivants, il y a toujours cette surprise positive, bien sûr, du fait qu'il y ait des gens de plein d'horizons, que ce soit sociaux, d'origine culturelle, de religion, d'orientation sexuelle. Enfin, et tout le monde, ou beaucoup en tout cas, s'y sentent extrêmement bien et se sentent en corrélation avec l'espèce d'ensemble qui se crée à l'instant T.
Au moment où vous lancez la créole, vous trouvez que les nuits parisiennes manquent d'éclectisme, de diversité ?
Peut-être d'audace.
Ouais, d'audace. Puis justement, comme je te disais, on dansait beaucoup tous les deux, mais souvent on nous renvoyait, c'était pas nécessairement négatif, mais ce truc de « Ah, vous êtes les gens qui osent danser !» Du coup, c'est pas forcément malveillant, hein. Mais dès que tu te mettais à danser, en tout cas moi c'était mon impression, il y avait un côté de soit t'es la personne qui se met en lumière, qui se met en spectacle, qui veut qu'on la regarde, soit oui tu dois être payé pour ça quoi, certainement t'es un danseur. Bon c'est pas forcément désagréable, mais des fois c'est bien aussi d'avoir le droit de s'exprimer, de se lâcher et puis qu'on vienne même pas t'en parler, qu'on te laisse danser et que même on se joigne à toi finalement. Donc et alors ça, on n'a pas écrit un règlement intérieur hein, dans la créole, mais ça s'est fait tout seul.
Il ouais, faut dire que la danse, c'est assez central dans les soirées de la créole. Ça danse énormément.
Mais ouais, la danse, c'est absolument central. C'est ce qui fait...
Enfin, faire la fête, c'est pas paraître, en fait. C'est danser, déjà, de base. Je dirais que ça devient de plus en plus sportif. Je pense qu'il faut pas... Si on vit en hiver, il faut peut-être arriver... chaudement, mais à quelque chose de suffisamment léger en dessous pour pouvoir transpirer tranquillement. Parce que je pense que si je vois quelqu'un hoodie dans la soirée, je me dis, bon, je pense que t'as pas compris comment ça fonctionne. À chaque fois, ça devient sauna, les murs qui transpirent, enfin, je pense qu'il fait plus de 40 degrés dans la soirée, en fait, tellement il fait chaud.
Comment on crée les conditions pour qu'il y ait cette libération de la danse ? Parce que vous avez... Il y a des danseurs dans les soirées, parce que vous le disiez, vous avez des amis dans l'entourage, des danseurs qui viennent du voguing, de la ballroom, etc. Mais globalement, tout le public danse énormément.
Oui, oui.
Même
absolument.
Des gens qui ne sont pas du tout danseurs.
Mais non, ça, mais... on ne sait pas. Il faut demander aux gens. Ça s'est fait tout seul, c'est juste organique. Entre notre volonté propre, mais comme je te disais, notre volonté... au-delà de... On va pas aller voir 700 personnes et dire « Monsieur, faut danser !» Ça s'est fait tout seul entre les gens qui traînaient déjà, enfin avec qui on traînait déjà, qui d'eux-mêmes avaient envie de danser et avaient certainement aussi besoin de cet espace dans lequel ils avaient le droit de danser sans être le danseur de service, quoi. Même s'il y en a aussi sur scène, mais c'est parce qu'ils le souhaitent et qu'ils le veulent bien. Ça, c'est encore une autre.
Mais après, oui, vous mettez en scène aussi la danse. Voilà, il y a des danseurs sur scène. C'est pas que un DJ set, les soirées de la créole, ça.
Mais après, je pense que ce qui capte l'attention aussi du public, c'est le fait qu'on leur dévoile des registres musicaux auxquels ils sont peut-être pas souvent exposés, mais autant on va aussi chercher dans leur leur nostalgie de musiques qui sont beaucoup plus inscrites dans la pop culture, des fois remixées autrement, mais qui les captent directement. Et en fait, on est dans une forme de communion par le souvenir, en fait, où on se dit tiens, ça c'est un son qu'on a trop kiffé, et là on le redécouvre sur avec d'autres sonorités, en fait. Donc je pense que c'est ce qui...
Des sonorités qui te laissent pas tellement le choix que de ne pas bouger. Finalement, c'est ça, en fait. Même si tu veux pas, ton corps est déjà parti.
Je pense que franchement, les DJ aux Antilles sont assez bons, je trouve. Je dirais pas que nous, mais on a cette culture aussi de reprendre des tracks ultra connus et de les mettre à notre sauce, en fait. Et c'est vrai que pour le carnaval, c'est aussi ça aussi. Il y a beaucoup de titres assez populaires qui, des fois, finissent en remix de carnaval et qui sont joués en live avec des orchestres et tout. Et c'est assez fou. Bah, c'est comme déjà même les producteurs Butcha Bois. À qui on a fait une soirée une fois, qui eux ont déjà remixé du Carmen, du Mozart, la SketchUp par exemple, et ça part dans tous les sens.
La sirène de la police.
Exactement. Et ça part dans tous les sens, et en fait on se dit juste, mais où est la limite ?
Tu parlais juste de la danse et de pourquoi les gens qui ne sont pas nécessairement danseurs s'autorisent. Je crois que ça va aussi avec cette notion de safe place et de lieu où tu te sens en sécurité. Ça va avec ce qu'on disait sur le public qui était varié et qui se croisait de manière très positive. Que tu sois en paillette ou en survette, tu peux rentrer, en fait. Il n'y a pas de critères à ce niveau-là. Le seul critère que la physio a, à savoir Claude Emmanuel, qui accueille très bien les gens, c'est de juste évaluer la bienveillance des gens, ou de prévenir si c'est un public qui est moins averti, qui a l'air, parce que c'est aussi c'est un point important mais délicat. Dès lors que ta renommée se diffuse, bah tu attires aussi des publics différents. Et nous, on a toujours dit qu'on était inclusif presque à l'envers. Ça part des minorités qui incluent ce qui est considéré comme la norme. On fait attention à ce que ce prisme ne s'inverse pas non plus dans le rapport humain des uns aux autres, et de plus être dans l'éducation, même si on ne fait pas un talk à chaque soirée non plus. Ça se fait, c'est insidieux, c'est induit, c'est organique. En tout cas, le jugement n'est pas quelque chose qui plane dans nos soirées. Comme ce n'est pas une soirée du paraître, peut-être qu'il y en a qui viennent y parader maintenant, que ça a pris une certaine ampleur, mais en tout cas, ce ne sera jamais l'espèce d'atmosphère ambiante. C'est un endroit dans lequel on dit tes jugements, tout ça, tu laisses ça de côté, tu viens. Et je crois que je pense que les gens qui viennent là depuis le début le chérissent aussi certainement. Et donc, il y a une majorité du public qui n'a pas envie que ça change, donc ils le transmettent un petit peu inconsciemment, autant que nous. Tu mets très vite ça de côté et tu te laisses juste emporter par l'espèce de bienveillance générale qui a l'air de transparaître, transpirer peut-être même plus de l'ambiance. Et du coup, même si tu ne sais pas nécessairement danser, c'est beaucoup plus facile de dire bah « ici, j'ai l'impression qu'on ne va pas me juger ». Et puis tout le monde est déjà tellement en train de s'occuper de sa propre transe, danse ou ce que tu veux, qu'ils n'ont même pas le temps de me regarder. Et puis même s'ils me regardent, ce ne sera pas pour me dire
Comme souvent on le décrit en termes de sonorité, mais je pense que ça se retrouve aussi en termes d'atmosphère, d'avoir quelque chose qui emprunt au carnaval, emprunt à la ballroom, emprunt au sound system. Et tout en étant aussi dans des codes des musiques, des soirées électroniques en fait, ou des soirées techno. Et en fait, on a, dans un certain sens, réussi à créer cette espèce d'équilibre, mais en célébrant d'autres musiques que ces musiques-là, en fait. Et même les fêtes de la musique, enfin, les deux qu'on a fait, c'était vraiment fait à l'arrache. en faisant juste un post sur Insta et les gens qui débarquent, on a l'impression qu'on était au carnaval de Nottingham.
C'est quoi vos meilleurs souvenirs justement ?
Je peux pas là, c'est comme dire quel enfant tu préfères.
Non, c'est vrai qu'il y a des souvenirs qui sont des fois très forts par rapport à certains DJ qu'on a pu avoir pour nos soirées, ou même des DJ qu'on connaissait peu qui se sont vraiment révélés chez nous aussi.
Même nos DJ résidents, finalement, on est toujours en mode « Ok, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours de l'improvisation, enfin en tout cas sur scène, en termes de danse.
Je crois qu'il y a une grosse générosité qui est amenée par les DJ.
Il y a une générosité de leur part, parce qu'il y a aussi une réponse extrêmement flamboyante de la part du public, et aussi, il ne faut pas l'oublier, des danseurs qui sont sur scène et qui accompagnent, qui transmettent, qui donnent beaucoup aussi.
Est-ce que ça a une saveur particulière quand même de faire la créole au chinois, à Montreuil ? Parce que du coup, vous l'avez dit, vous avez fait des soirées ailleurs, en dehors, dans d'autres clubs, même en dehors de l'Île-de-France.
On a réussi à faire venir le monde au chinois. Hein. C'est vraiment ça, hein, qu'on voit les gens, même pendant les Fashion Week, Sean Ross. Pour beaucoup partie aussi d'une des magies de cette soirée. Je pense que c'était sur la deuxième édition où nous avait carrément fait scinder la salle en deux. Il avait pris le mic et on avait commencé à faire sortir les vogueurs et tout. On a l'impression qu'il y a un bol qui était en train de se préparer, qui était totalement improvisé. Et ça, je pense que ça fait partie en fait de ce qui fait que la soirée est devenue spéciale sur Paris. L'énergie du chinois est assez intrinsèque à notre soirée. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est confronté à une réalité où en fait on a tellement grandi que le chinois devient vraiment trop petit.
On disait tout à l'heure que c'était une conception de la fête globale à 360 degrés et pas juste une soirée avec des DJ. En plus, bah, vous venez de la photographie, du stylisme, du vêtement. C'est quoi la dimension visuelle de la fête pour vous, visuel et vestimentaire? Parce qu'il y a aussi une place importante aux vêtements dans les soirées de la
créole. Aux vêtements et aux visuels.
Et aux visuels.
Effectivement. Ça part d'un projet photo, image. Donc, pour chaque créole, on réalise un visuel. Vincent s'occupe du casting et du stylisme. Moi, je m'occupe de la photographie et de tous les éléments visuels. C'est moi qui les crée de manière générale. Il y avait cette notion de repenser le flyer au début. C'est pourquoi d'ailleurs, la toute première, les gens ne savaient pas s'ils venaient à une expo ou à une soirée. C'est parce que le flyer était une œuvre.
Était un visuel de l'expo.
On travaille le flyer comme on travaillerait une photographie qu'on composerait à deux pour un musée. Quoi.
Et c'est vrai qu'il y a quand même un fil conducteur sur chaque visuel, c'est qu'il y a la présence d'une créole à l'oreille. Parce que les gens connaissent plus le bijou que la culture, que ses identités. Et en fait, le nom de la soirée était choisi pour ça, en fait. Parce que les gens connaissent justement la créole, la boucle d'oreille. Et on se disait même, ça pourrait être drôle de voir si les gens viennent avec des créoles aux oreilles, en fait, pour les soirées.
Et puis,
c'est arrivé, en plus, pour certains.
Le dress code.
Ouais.
Il y a aussi les visages qui sont choisis pour incarner chaque flyer, parce qu'à chaque fois, c'est un portrait d'une personne donc issue encore une fois de la créolité de près et de loin. Et puis après il y a toutes les photographies que moi je prends durant les soirées. Enfin, moi là je m'éclate à, parce que c'est un terrain de jeu incroyable, l'énergie qui s'y propage et la manière dont les corps, les visages, les couleurs, les vêtements, les textures, enfin bref, tout ça se mélange. J'essaie d'avoir un œil qui soit à la fois un regard documentaire, d'avoir une vision assez globale des personnes qui ont marqué pour moi la soirée ou certains instants, des moments de groupe, parfois plutôt des individualités, parfois des tenues vestimentaires. Et ces photos qui, au début, avaient une fonction tout à fait communicative de « voilà, il s'est passé ça, venez, c'est super, regardez ce que vous manquez si vous venez pas ». Et en fait, c'est devenu une dimension véritable dans mon travail artistique. Un panel d'images que j'aime beaucoup et que je valorise pour... Parce qu'en plus, on a tendance, dans le milieu de l'art ou de la photo, un peu dévaloriser cette idée de photo de soirée. Il y a ce côté un peu, oui, c'est Romuald qu'on a fait venir, ou je sais pas, Jean-Jacques, n'importe quoi. Et il a juste pris 2-3 photos de ceux qui ont bien voulu se faire tirer le portrait pour être sur Facebook le lendemain. Et finalement, non, c'est pas que ça. Enfin, même, et d'ailleurs, même ces photos de l'époque des années 2000, finalement, elles ont une place majeure dans les archives de ce qu'on a vécu. Et quand tu regardes, même, il y a des images de... C'est Malik Sidibé, je crois, où dans des soirées avec des couples qui dansent et tu... Ça te raconte un moment, une époque, une communauté, etc. Et c'est vachement important, je trouve.
C'est compliqué d'exprimer en photo l'énergie d'une fête, d'une danse.
Moi, je trouve pas. mais c'est ce que je recherche aussi. Enfin, j'aime bien découper les silhouettes, les images. J'attends ces instants-là. Donc, les créoles, je les ai assez pratiquées pour savoir un peu quand est-ce que ça va se passer.
Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui relie fondamentalement une soirée de la créole, une free party trans dans un bois du 77, le carnaval en Guadeloupe? Celle-là, le lien est peut-être plus direct et évident, mais voilà, en tout cas, toutes des formes de fêtes différentes. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de commun qui relie tous les gens qui vont faire la fête comme ça et qui vont danser?
À la notion de communion humaine, je pense.
Déjà, il a envie de s'amuser. Enfin, de se libérer de notre quotidien, de ne pas se sentir observé. Enfin, même si on est quand même face au public. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez libératoire, généralement, dans la fête.
Et donc, tu reviens à la notion identitaire. Parce que c'est ton identité que tu libères. Enfin, tu t'autorises dans... un lieu dans lequel tu te sens avec, je sais pas, tes pères ou des gens qui feront la fête de la même façon que toi ou qui s'exprimeront vestimentairement.
Mais je pense que même tout simplement dans la nuit, déjà, on a une autre vision de la vie. Enfin, il y a des choses qu'on se permet de faire de nuit qu'on fera pas de jour. Et il y en a qui aiment bien compartimenter justement ces choses. Et je pense que nous, en fait, que ce soit en journée ou en nuit, en fait, je pense qu'on arrive quand même à garder la même essence.
Oui, c'est vrai. Bah, t'éteins la lumière, donc de toute façon, la nuit, tous les chats sont gris, comme on dit. Tu te sens un peu plus fondu, finalement. C'est parce que la nuit, elle te permet de te montrer en te cachant.
Il y a un sujet qui est un peu éludé, ou voire tabou, quand on parle du monde de la nuit, du monde de la fête, alors que c'est souvent présent, c'est la question de l'alcool ou de la drogue. Vous, comment vous gérez ça?
Notre public ne se drogue pas et ne boit pas trop parce qu'il est trop occupé à danser. Alors, bien sûr, ça existe quand
ça
même.
Ça existe forcément, évidemment. Mais il y a beaucoup d'amis qui se sont rendus compte qu'en fait, ça sert à rien de faire un before avant. Parce que sinon, ils peuvent pas profiter de la soirée.
Déjà, ils peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop la queue quand ils arrivent. Donc, dans une créole, tu peux venir tôt et dès 23h, ça danse. Parce qu'avant, les gens venaient tard. Parce qu'avant une certaine heure et avant que donc les gens soient alcoolisés, ils n'osent pas danser. Donc, on vient plus tard quand on osera nous-mêmes danser puisqu'on sera assez désinhibés. Sauf que comme nous, ça danse dès le début. Et que du coup, les gens viennent tôt, parce que sinon tu fais la queue, ça oblige les autres à venir tôt aussi. Donc déjà, on a réinventé la soirée qui commence à 23h.
Et le DJ du warm-up ne fait pas juste un warm-up.
Ah oui, non,
chill,
il n'est pas là pour faire le décor.
Envoie.
Le DJ du warm-up, nous, on veut qu'il fasse pareil que les autres. Et pour revenir à ta question primaire, qui était celle de l'alcool et de la drogue, bah comme les codes de la danse et de la fête, enfin de comment et pourquoi faire la fête, sont pas les mêmes que dans la plupart des soirées, ça redistribue les cartes. Et donc finalement, on n'a pas tellement à gérer cette question qui peut devenir un problème, parce que c'est vrai que ça met aussi en danger, hein, tout simplement. Enfin, les gens s'autorisent ce qu'ils ont envie de s'autoriser, bien sûr, mais ça reste assez bienveillant pour le moment, et j'espère que ça continuera. On a une team qui est assez soft aussi, en général. Nous, quand je donne notre rider, il y a écrit des bonbons, des jus. Ils sont là, vous faites une boum, vous avez 12 ans. Oui, de l'eau, beaucoup d'eau.
Vous êtes plutôt before ou after, justement?
On est plutôt la créole.
Moi, je suis plutôt soirée.
contre soirée.
Plutôt soirée.
Ouais, bah, c'est ça.
Manière, même le before, moi je le fais tout seul dans mes écouteurs sur le chemin. Donc,
Il n'y a pas besoin de before, comme tu disais. On arrive à la soirée, on danse. Clairement. Et quand il n'y a plus de soirée, c'est fini.
Exactement. En fait, mais en fait comme on est là pour ça.
Plus.
Mais souvent, ce qui impulse le before et l'after, c'est l'alcool et la drogue, en vrai. Et comme ça se passe différemment chez nous, bah, nous, c'est la soirée et c'est la soirée.
C'est quoi, pour vous, les ingrédients qui vont faire qu'une soirée et qu'une créole va être réussie? Ça va être la musique, le public?
Mais c'est tout. C'est le cocktail. C'est la créolisation.
Moi, je dirais que ce qui fait que ça fonctionne, c'est la famille qu'on s'est créée. C'est vrai que ça nous rassure déjà d'être avec toutes ces individualités qui font corps avec notre communauté qu'on a créée.
C'est vrai, c'est vrai.
Et je pense que ça fait partie quand même de la magie de la créole.
Ben, c'est vrai qu'à force, on a créé un certain noyau autour duquel le reste n'a plus qu'à graviter. Famille qui s'est constituée de manière très organique, encore une fois, parce que les danseurs que vous voyez aujourd'hui sur la scène,
c'était des clients,
ils avaient payé leur entrée, ils ont dit « Oh, ça a l'air sympa !» Et puis juste, ils sont revenus, et ce n'est qu'il a posé ses valises sur la scène, il a dit « Je pars plus d'ici !» Et c'est pareil pour l'ensemble, Mariana, Zikos, Raïcha, Patricia. Ce noyau fait qu'aujourd'hui, on ne s'inquiète plus de « Est-ce que ça va fonctionner ?» On le sait, de toute façon, on sera là, on va vivre notre moment. Mais on va le diffuser avec plein de positivité.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête?
Ah, le manque de respect.
L'extrémisme ou le radicalisme. Enfin, par le conservatisme, en fait. Non, il ne faut pas que les choses bougent, il faut... Alors que nous, on est plutôt dans le brassage, et ceux qui n'arrivent pas à composer avec, c'est compliqué.
Et alors, pour conclure, après toute cette discussion, qu'est-ce que c'est au final pour vous? Pour chacun d'entre vous, pour vous ensemble peut-être, le sens de la fête, sa raison d'être profonde.
L'identité, trouver sa place.
Je dirais qu'il y a de l'amour de base. Non, je trouve que ça émane beaucoup de l'amour, du partage, et ça crée une énergie tout simplement.
Le sens de la fête est un podcast de Nicla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si vous deviez choisir une track, un morceau ultime pour faire la fête, ce serait lequel?
Nous, on a déjà un hymne qui s'est imposé par lui-même, qui est ma chatte de
Lazy Flow, de Lazy Flow et Matthews.
Ma chatte, ma chatte, ma chatte est en feu. Ouais, dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu. Ma chatte, ma chatte, ma chatte est en feu. Ouais, dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu. Ouais, dis-le, dis-le, dis-le si t'en veux encore un peu.
Mais après, je pense que un des deuxièmes hymnes de la créole et qu'on réutilise souvent, et je me rends compte à chaque fois qu'on le joue qu'il est vraiment hyper marquant, c'est Teleform de Jay Driver, qui en l'espace de 3 minutes 40, quelque chose comme ça, on arrive à passer par tellement de références musicales, de rythmes. On a l'impression d'avoir des sonorités un peu arabisantes, tout en étant sur quelque chose qui rappelle du compas, tout en étant sur de la musique électro. Enfin, je trouve que c'est un assez bon mix.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.